sur Blueprint.
Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la cartouche épisode 45, le podcast Blueprint qui se plonge dans le jeu vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Yann Rieder et comme à chaque épisode, je suis accompagné de mon comparse Lou Lassina-Foubert. Salut Lou!
Eh bien salut Yann, je suis une intelligence artificielle créée à partir de Lou et je suis très content de faire cet épisode en ta compagnie.
Ah, effectivement mon cher Lou, ce n'est pas toi qui es en présence là en face de moi, ou en tout cas en face de moi dans un sens plus virtuel en étant connecté que ce soit sur Skype ou sur un autre programme qui nous permettrait de nous appeler. Non, le problème c'est qu'on prend des vacances juste avant le 3, les deux mais de manière complètement différente. On n'a pas trouvé un seul instant pour pouvoir enregistrer ensemble, donc je suis assis en face et bien à la fois du conducteur, du texte que nous avons préparé pour cet épisode, des différentes notes que nous avons, mais aussi d'enregistrement, ce qui fait que je peux faire ceci.
Eh bien.
Voilà, c'est complètement n'importe quoi, mais c'est la preuve que Lou n'est pas en chair et en os en même temps que moi présent dans le studio, mais est simplement présent de manière plus virtuelle, plus robotique. Il est dans un petit dossier sur le bureau de mon Mac qui s'appelle Robot Lou. Voilà pour les petites explications. Allez, c'est parti, on attaque le programme de l'épisode avec nos prédictions pour l'E3 2019. Et ces prédictions E3 qui seront évidemment vérifiées tout au long de l'événement et qui seront récapitulées à la fin lors de notre dernier épisode de Quotidienne qui aura lieu le 12 juin, qui sera publié le 12 juin au soir. Elles vont commencer ces prédictions par Microsoft. On va prendre mes prédictions pour commencer. Et tout d'abord donc, en ce qui concerne Microsoft, qui est à la fois éditeur et constructeur, m'est avis qu'on aura le nom, l'année de sortie et le design de la prochaine console de Microsoft, mais pas les spécifications complètes. Qu'est-ce qu'il y a dedans en matière de hardware? Je pense qu'on ne le saura pas, ni le prix. On voit clairement, et c'est l'objet d'une news qui viendra ensuite, que Sony essaie également de rester un peu discret sur ces questions-là, peut-être d'attendre justement ce que la concurrence va proposer. Je pense également que Microsoft va potentiellement se la jouer limité en disant voilà le concept de la console, mais pas encore les détails spécifiques, vu que le lancement serait vraisemblablement pas trop pour 2019, mais plus pour 2020. Deuxième prédiction, il s'agit d'un mode Battle Royale pour Halo Infinite. En tout cas, c'est sous ce nom-là qu'on le connaît, le prochain jeu Halo, qui, sauf erreur, devrait sortir à la fois sur Xbox One et sur plateforme next-gen de Microsoft. Un mode Battle Royale, à mon avis, ferait sens. Le jeu est développé un peu pendant la période de grande folie autour de Fortnite et même de PUBG. Donc ça me paraîtrait assez logique que Microsoft veuille une part de ce gâteau. Enfin, d'une certaine manière, et c'est marrant parce que Lou transforme un petit peu cet essai-là dans une de ses prédictions, je pense que Microsoft parlera ou montrera une certaine forme de collaboration avec Nintendo. On a pu en parler plus tôt cette année avec Appion, évidemment. On a toute cette histoire de Gaming Live, de trophées, de Xbox Live et de trophées. C'est Appion qui travaille chez jeuxvideo.com, ça m'a fait dire Gaming Live comme ça. C'est un mot associé du vocabulaire qui va avec. Non, voilà, je pense sincèrement qu'il y aura une référence d'une manière ou d'une autre à de la collaboration avec Nintendo. Allez, fort justement, mon cher Lou, on va pas tout de suite parler de Nintendo, mais on va parler de ta première prédiction en ce qui concerne Microsoft.
Eh bien moi, du côté de chez Microsoft, ce n'est même pas la Xbox, la nouvelle Xbox qui m'intéresse, c'est plutôt Age of Empires 4. Le jeu a été annoncé il y a déjà quelques années et on n'a toujours rien vu à part des trailers, aucune image de gameplay, tout ça, pendant que les trois premiers épisodes sont en train d'être remasterisés. Donc c'est pas très très cool. J'espère vraiment qu'on aura enfin des images d'Age of Empires 4. À voir, est-ce que le jeu pourra renouveler le jeu de stratégie comme il l'a fait à l'époque? Mystère. Je prédis en tout cas que le jeu sera bel et bien présent durant cette E3 2019 et qu'il devrait recouvrir des époques très très élargies. On va dire qu'on va partir de l'Antiquité pour arriver jusqu'au Moyen-Âge. Et ça, ce serait complètement zinzin en termes de gameplay.
C'est très intéressant cette prédiction, Lou, parce que tu n'en fais pas la spécification et il n'y a rien qui ne l'interdit dans les règles de nos prédictions E3, mais j'ai sincèrement l'impression que si on verra Age of Empires, ce ne sera pas nécessairement dans la conférence Microsoft, mais ça risque d'être dans la conférence PC Gaming Show, qui aura également lieu cette année, qui aura lieu à une heure assez décente d'ailleurs, pour une fois, sur le calendrier. Donc je garderai un œil là-dessus. Ça me semble être un type de jeu plus présent là-dessus, ou alors en Allemagne, à la Gamescom, dans quelques mois, à la rentrée. C'est également quelque chose qui serait, à mon sens, possible. Allez, on passe à ta deuxième prédiction pour Microsoft.
Et toujours chez Microsoft, ce qui devrait se passer surtout, c'est une collaboration effectivement avec Nintendo, et je parie que ce sera à travers Minecraft qui devrait être présent d'une manière ou d'une autre dans Smash Bros. J'espère que ce sera en tout cas un personnage et un stage, donc faire partie du Season Pass, ce serait vraiment sympa.
Donc oui, je le disais, et là tu transformes un petit peu l'essai. Minecraft dans Smash, c'est une rumeur extrêmement récurrente, donc c'est un bon choix. À mon sens, c'est un très bon choix, encore une fois, quand on voit les différentes initiatives entre Microsoft et Nintendo autour de la Switch et autour même de la licence Minecraft, avec la mise à jour Better Together qui, sauf erreur, avait été annoncée il y a un E3 ou deux. Better Together, donc, qui est cette initiative de pouvoir jouer à Minecraft entre différents supports, en gros tous sauf la PlayStation 4, et plus du fait, enfin la PlayStation 4 est isolée plus du fait de Sony que de Microsoft, si on en croit Microsoft. Donc c'est intéressant, et Minecraft serait effectivement un bon ambassadeur d'un univers Microsoft dans Nintendo, moins symbolique dans un certain sens, puisque Minecraft est une licence multiplateforme par essence, quasiment, mais je trouverais ça quand même assez intéressant et assez saisissant. Allez, dernière prédiction, et je pense que tu vois très juste sur cette dernière prédiction.
Et ce qui avait secoué l'année dernière du côté de chez Microsoft durant le 3, c'était les nombreuses acquisitions annoncées du coup par Microsoft. Et je pense que cette année, Microsoft devrait taper à nouveau de ce côté-là pour pouvoir séduire pour sa nouvelle console. Je pense qu'on aura encore quelques petits achats. Monsieur Xbox va casser sa tirelire pour choper quelques studios bien placés, histoire de proposer de vraies cartouches au lancement de sa nouvelle Xbox.
Oui, clairement, et je vais pas mettre de point dessus, je vais pas le faire en tant que prédiction, mais je serais très peu surpris si parmi ces nouvelles acquisitions de studios, on comptait pas certains indépendants ou certains petits studios qu'on peut considérer comme indépendants. Je pense que ça peut être vu comme une manière de s'arroger aussi du jeu vidéo tant qu'art, ou du jeu vidéo moins triple A, moins loot box, moins gros flingue et plus diversifié, ce qui a parfois tendance à manquer un petit peu à tous les constructeurs en vérité, hein, d'une manière ou d'une autre, non pas que Nintendo ait gros flingue triple A loot box, mais plus que chaque constructeur soit enferré dans un carcan. Il manque des gros FPS bien baveux à Nintendo, et il manque des jeux de plateforme artsy, je caricature un petit peu, mais c'est aussi un petit peu ça, à des constructeurs comme Microsoft et Sony qui avait fait un certain effort auprès des indépendants, qui les avait bien mis en avant il y a cela quelques E3 maintenant, au début de la PlayStation 4, et quand la PlayStation Vita était encore une plateforme bien vivante et appréciée des indépendants, justement. Donc je garderai un œil là-dessus. Microsoft pourrait clairement sortir le chéquier. Là encore, on a eu même des petites annonces de rachat de studio, je crois, dans du Xbox Direct, hein, je ne sais plus quel est le nom du Xbox Direct, Inside Xbox, voilà, il y a quelques temps. Si on fait des annonces dans un vecteur média aussi moyennement intéressant, je pense qu'il y a aussi des grosses annonces sous le coude pour la conférence E3. Je pense sincèrement que ça ferait énormément de sens. Pas de Sony cette année, donc Sony n'est pas dans le cadre de nos prédictions. On passe tout de suite à Nintendo avec trois prédictions. La première prédiction qui me concerne, c'est un jeu indé qui sortirait dans la semaine, voire même dans la journée de l'E3 2019. Dans la semaine ou dans la journée de la conférence, ou plutôt du stream vidéo de Nintendo, du Nintendo Direct associé à cela. Comment dire ? Je pense que ce sera Cadence of Hyrule. Ça fait pas partie de ma prédiction, mais il y a ce sentiment-là. S'il ne sort pas demain quand j'enregistre, et hier quand vous écoutez cet épisode, ou en tout cas quand il sort, ce sera vraisemblablement Cadence of Hyrule, donc le jeu Zelda Necrodancer, pour faire une sortie quasi immédiate à la... c'est pas Dead Cells qui était sorti, c'est le jeu tout mignon dans le monde des insectes, dont le nom m'échappe, et je ne suis pas du tout en train de prendre ma Switch pour le retrouver, car il est quelque part dessus. Je vais reconnaître l'icône, c'est Hollow Knight. Voilà, une sortie à la Hollow Knight comme l'année dernière. Donc je m'attendrai à ça. Je m'attendrai à un indé qui sort pouf comme ça sur Switch, un indé un peu prestige. Et c'est pour ça que, bah, voilà, un indé qui partage une licence Nintendo, c'est clairement de l'indé prestige, qui soit sorti dans ce cadre-là. D'autant plus que les metadatas, c'est-à-dire en gros les informations un petit peu cachées sur la page web du store américain, je crois, de Nintendo, enfin de Cadence of Hyrule, du jeu Cadence of Hyrule, a glissé de fin mai parce que le jeu à la base potentiellement aurait pu sortir en mai, au 20 juin. C'est pas nécessairement que le jeu sortira au 20 juin, mais c'est peut-être une question de deadline pour comment fonctionne leur système interne, ce qui du coup mettrait complètement une sortie pendant le 3, ça mettrait ça de manière complètement, enfin ce serait complètement réaliste pour le coup. Donc je m'attendrais à ça, je m'attendrais assez sincèrement à ça, à voir, mais pour moi ça fait vraiment partie des possibilités. Deuxième prédiction Nintendo, l'annonce d'un DLC Smash Bros. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, peu importe ce que c'est, je pense qu'ils vont en profiter d'une manière ou d'une autre pour nous caser un petit trailer bien sympa, voire même pour avoir un petit peu des explications sur le gameplay de ce personnage-là, qui devrait peut-être pas sortir tout de suite, mais qui devrait peut-être sortir genre plus tard cet été pour continuer à faire vivre la Switch cet été, ce qui est important. Et enfin, je pense, troisième prédiction, que cette conférence sera le moment de continuer à vendre l'abonnement Nintendo Online avec un gros truc, peu importe ce que c'est, un gros truc, on va dire, de l'échelle de Tetris 99 ou plus gros encore. Ça pourrait par exemple être une démo inédite d'un jeu qui sera présenté à l'E3 et qui sera distribué de cette manière-là, donc prenez l'E3 chez vous avec votre Nintendo, votre abonnement Nintendo Switch Online, ça pourrait être ça, ça pourrait être un jeu gratuit, ça pourrait être une offre supplémentaire comme une console virtuelle Super Nintendo, Nintendo 64, whatever. Vraiment, ça peut être l'un de ces trucs-là. Un truc que je veux préciser avant de passer la parole à Lou sur Nintendo, ce qui est très très fun, c'est que comme l'année dernière, il y a une concomitance parfaite où en gros, il y a la conférence Nintendo le mardi à 18h et une heure après, il y a la séance de passation de pouvoir du maire et du président de conseil municipal dans ma ville que je couvre pour un journal local. Et donc, je vais être assis avec mon smartphone à 18h en train de mater le truc. Prendre rapidos des notes comme je peux dans un carnet ou quoi que ce soit, on verra bien comment je me débrouille. Faire le journaliste juste après, bon journaliste presse locale, bonjour madame, bonjour monsieur le maire, etc. Pour couvrir, pour voir un petit peu ce qui se passe. Et ensuite, je remonte et on enregistre la cartouche. Quelle vie, mes amis, la période de 3 est incroyable, même au-delà du jeu vidéo, je vous le dis. Et c'est exactement la même chose que l'année dernière, ça s'est passé de la même manière, je me souviens avoir maté les trailers comme ça, juste avant cet événement de la vie publique de mon bled. Voilà, allez, on passe à Loulou, tu as également des opinions sur Super Smash Bros. Ultimate.
Une annonce de DLC pour Smash Bros. Eh bien moi, je vais te dire ce qu'on va avoir dans Smash Bros. Je parie que c'est un personnage de Dragon Quest. Ah. Ça y est, enfin, officiellement. Bon, c'est vrai que les rumeurs vont montrer depuis très longtemps. Mais là, cette fois-ci, le partenariat devait être enfin officialisé. Et je pense que ça a même été teasé du côté de chez Square Enix quand ils ont dit qu'il y aurait une annonce à faire du côté de Dragon Quest. Pour moi, pas de doute. C'est forcément ce partenariat et rien d'autre.
C'est strictement inévitable à mon sens avec le boss Dragon Quest, le gros dragon, dont j'ai complètement oublié le nom parce que je ne suis pas très Dragon Quest, qui est dans le jeu depuis le départ, qui est dans le mode aventure, mais qui est aussi dans le mode classique, dans certaines fins du mode classique. Donc je ne suis pas surpris, voilà, ça ne m'étonnerait pas. Bon, allez, prochaine prédiction, Lou.
Et qu'est-ce qui va arriver du coup sur le Nintendo Online ? C'est la SNES, tout simplement. Je pense que les jeux SNES vont enfin arriver sur le Nintendo Online, avec attention, Super Mario World bien évidemment, The Legend of Zelda A Link to the Past, excellent épisode, et attention, roulement de tambour, Super Mario Kart jouable en ligne. Ça, ce serait vraiment très cool.
Ce serait très cool, effectivement. La technologie est là, hein. Jouer en ligne à deux joueurs simultanément dans le Nintendo NES Switch Online, ça se fait, ça se joue crème. Il n'y a pas de souci. Donc, je ne suis pas du tout inquiet de ce côté-là, du moment où il y a ça. Personnellement, je trouverais plus impressionnant de pouvoir jouer en multi sur une console virtuelle Nintendo 64. Ce serait quand même chouette, plutôt que sur une Super Nintendo, pour plein de raisons. Mais c'est toujours bon à prendre. La NES est un peu le parent pauvre des vieux jeux Nintendo, pour être très honnête. La Super NES, vraiment, en termes de gameplay, en termes de vraies sauvegardes, de difficultés, etc., de manière générale, sur les jeux first party, c'est quand même une autre expérience, c'est quand même une autre qualité de jeu également. C'est des trucs qui se jouent beaucoup plus pour le fun que pour l'aspect musée. Donc je serais très heureux de voir ça venir. Enfin, dernière prédiction Nintendo, Lou.
impossible selon moi durant cette E3 pour Nintendo de faire l'impasse sur Animal Crossing, bien évidemment, un titre extrêmement attendu par la communauté. Et je pense qu'ils vont frapper fort. Attention, je vais rêver là très clairement. J'imagine un village à plusieurs jouables en ligne. On pourrait se regrouper, tu vois, à plusieurs dans un même village qu'on pourra faire prospérer ensemble. Ça me paraît un petit peu délicat parce qu'évidemment, il y aura toujours quelqu'un pour couper les arbres et faire chier tout le monde. Mais pourquoi pas, ça pourrait être sympa et s'ils osent faire ça, je prédis un énorme succès du jeu. Il faut vraiment qu'ils se dirigent vers quelque chose de beaucoup plus ambitieux pour Animal Crossing que ressortir à chaque fois la même recette, même si elle est sympathique. Ça a quand même du goût de réchauffer, en tout cas. Donc là, ce serait pour moi un vrai pas en avant pour Animal Crossing Switch.
Tu as tout à fait raison, Animal Crossing, c'est inévitable pour cette E3, très sincèrement, j'en parlais pas, encore une fois, tellement c'est évident et tellement c'est même pas fun d'essayer de deviner ça. Mais ce que tu nous dis donc sur les villages à plusieurs, à voir, à vérifier, en fonction de ce qui sera annoncé. Allez, on passe maintenant à deux éditeurs pour finir ce tour de prédiction. On commence avec Ubisoft. En ce qui me concerne, donc, première prédiction, il n'y aura pas de jeu Rayman, à mon grand regret, car c'est un petit peu mon running gag depuis Rayman Legends. Mais par contre, très sincèrement, je vois venir gros comme une maison, non seulement une collaboration avec Nintendo, parce que c'est quelque chose de récurrent maintenant. On a eu Starlink, on a eu Mario et les Lapins Crétins. Et bien voilà, je pense très sincèrement, 2019, c'est le moment. Mario et les Lapins Crétins 2. Peut-être le même gameplay de jeu au tour par tour, vous progressez sur une grille un peu façon XCOM. Peut-être pas, peut-être que ce sera l'occasion d'explorer un autre truc, avec une bonne mise en avant évidemment de Davide Soliani de Ubisoft Milan, qui avait beaucoup marqué le public, beaucoup marqué l'industrie également. Donc je vois ça venir, mais alors à 3000 km à l'heure. Je m'attends également, alors ne me houspillez pas, un trailer de BGE 2, vous allez me dire, mais oui, tu y vas trop facile, c'est comme si tu disais Animal Crossing chez Nintendo, c'est n'importe quoi. Non, un trailer de BGE 2, oui, Beyond Good and Evil 2, mais avec un morceau de musique hyper connu derrière. Façon Gangster's Paradise de Coolio, derrière le Sonic, le trailer de Sonic, le film Sonic, Sonic the Hedgehog au cinéma, par exemple. Ça, c'est l'idée. C'est d'avoir un morceau de musique extrêmement mainstream, utilisé de sorte de ponctuer un trailer de BGE 2 qui serait présenté durant la conférence E3 d'Ubisoft. Enfin, troisième prédiction, quelque chose de relatif à Trackmania. Peu importe quoi, mais quelque chose de relatif à Trackmania. Que le mot Trackmania soit dit sur scène pour annoncer quelque chose de nouveau. Ça peut être un documentaire, ça peut être un nouveau jeu, ça peut être un portage, ça peut être un remake, ça peut vouloir dire que la licence n'existe plus jamais. L'une de ces choses-là, je pense sincèrement. Je suis pas le seul, toutefois, à m'intéresser à Beyond Good and Evil 2, Lou aussi.
Eh bien, si tout le monde attend Beyond Good and Evil 2, je leur conseille d'attendre encore un petit peu parce que je pense qu'on n'aura toujours rien de concret, vraiment, pour ce jeu, qui va encore nous faire saliver, je pense, d'une manière ou d'une autre, comme peut-être une jolie petite vidéo. Rien de très concret du côté du gameplay, et pour le reste, je suis sûr qu'il n'est pas prêt de sortir, en fait, j'ai l'impression.
Je ne serais pas si pessimiste que toi, mais c'est vrai que la réputation du jeu n'aide pas. Deuxième prédiction.
Au menu pour Ubisoft, je vois Rayman qui ressort du placard pour un nouvel épisode en 2D et multijoueur, comme Origins et Legends juste avant lui. Et ce serait vraiment très très bien parce que bien évidemment, il va aussi sortir sur Switch, Rayman, mais sur Switch, bien sûr, tout le monde en veut. Et surtout moi parce que vraiment, les épisodes précédents étaient d'excellents jeux de plateforme et ça me plairait vraiment en fait de voir Rayman qui revient.
C'est un rêve personnel ce que tu me dis là, Lou. J'aimerais beaucoup que ça se passe. J'ai repensé Rayman Legends sur Switch après l'avoir fait sur Wii U. D'ailleurs, pas vraiment la meilleure console pour ce jeu-là, c'est une parenthèse. La Switch est bien meilleure que la Wii U pour beaucoup de choses, y compris pour Rayman Legends. Mais plusieurs sources, je vais m'en tenir à ça, plusieurs sources m'ont confirmé que c'était clairement pas le cas. M'ont confirmé relativement récemment que Rayman, en 2D ou en 3D, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait dessus. Donc, soit j'ai des sources très mal informées, on verra bien, ou moyennement mal informées, voilà, pas de chance, soit, Soit j'ai tristement raison, voilà, ou en tout cas les gens qui m'ont informé ont tristement raison, mais je compterai pas trop dessus, je compterai pas trop sur ce point Lou, pour gagner la tête sur ce petit championnat. Et là Lou, tu me déçois un petit peu, c'est un petit peu trop évident, mais je te laisse le dire.
Et si Watch Dogs revenait pour un troisième épisode, ça ne me paraît pas forcément si inconcevable que ça. La licence a plutôt bien fonctionné jusque maintenant. Elle a son petit public, donc un troisième épisode, ça pourrait être bien pour inaugurer, on va dire, les nouvelles machines et profiter peut-être, pourquoi pas, de la mobilité de la Switch.
C'est peut-être un petit peu tôt pour présenter un jeu, encore que, hein, pour présenter un jeu next-gen, à moins qu'il joue sur le coup de la rétrocompatibilité, si Microsoft a également la rétrocompatibilité entre la Xbox One et son futur nouveau support. On sait que Sony l'a. Donc à voir. À voir, très sincèrement, je suis pas tout à fait confiant à 100% en tout cas de qu'ils sortent de cette manière-là, en tout cas de manière exclusive sur les nouveaux supports, peut-être à cheval, qui sait, ou peut-être annoncé sur Stadia en partie, etc. On n'a rien sur Stadia alors qu'Ubisoft est très partenaire de Stadia, c'est marrant. On reste très très safe avec Google. on verra ce qu'il en est. Dernier éditeur, c'est Bethesda, évidemment. Et ma première prédiction, c'est que quelqu'un, vraisemblablement Todd Howard, mais peut-être quelqu'un d'autre, viendra sur scène et s'excusera pour Fallout 76, pour, je dirais, l'ensemble de son œuvre, sa sortie, les goodies, le support qui était catastrophique, le jeu qui était mal fini, enfin, toute l'aventure Fallout 76, qui fait que dans les boutiques de jeux d'occasion, Fallout 76, eh bien, ce n'est pas cher du tout. Voilà, donc d'évoquer Fallout 76 et d'évoquer une notion de regret serait un bon premier pas. Deuxième chose, alors je vais me la jouer un petit peu loup par rapport à BGE2, on ne verra rien de concret, on ne verra pas de gameplay d'Elder Scrolls 6 qui sera vraisemblablement mentionné, mais rien d'autre. Et enfin, on nous présentera une nouvelle licence. Bethesda travaillera sur quelque chose d'inédit. Au-delà d'ailleurs de son truc spatial dont on a eu un petit teaser, si je me fais erreur d'ailleurs, je ne suis pas très Bethesda, mais sauf erreur, c'était quelque chose qui était déjà un peu évoqué, cette licence spatiale. Là, je parle vraiment de complètement autre chose, quelque chose de complètement inédit. Lou, quant à toi, du côté de Bethesda, qu'est-ce qu'on retrouve ?
Et si on partait pour Fallout 76 A Vault Reborn, un petit peu à la manière de Final Fantasy XIV, je pense qu'ils vont un petit peu refaire le jeu pour se dire, allez, on a quand même essayé de faire quelque chose, mais on peut faire beaucoup mieux, donc on va tout transformer, essayer de faire quelque chose de correct, parce que là, c'était vraiment du pipi de chat.
Voilà, bah ça joue complètement dans ce que je disais tout à l'heure. Oui, potentiellement, à voir, je ne sais pas. Je... Quitte à le refaire, je sais pas, ce serait quand même un petit peu logique, il y a des gens qui aiment le jeu, mais je serais quand même étonné de les voir, si tu veux, je pense que c'est quelque chose à faire plus discrètement, si c'est le cas, ce serait quelque chose à faire plus en marge, mais voilà, ça c'est mon petite parenthèse.
Bethesda a une grosse cartouche, et je pense qu'ils le savent, c'est Doom Eternal, et je pense que pour cette raison, on aura le droit à environ 10 minutes, au moins 10 minutes de gameplay du jeu. On va suivre un niveau en entier quasiment, avec plein d'explosions dans tous les sens, plein de monstres, plein de combats, plein de choses hallucinantes pour les yeux, mais ça va peut-être durer un peu trop longtemps.
Ça ne m'étonne pas du tout, d'autant plus chez quelqu'un comme Bethesda qui a beaucoup de temps et relativement peu de choses à montrer, donc je ne serais pas du tout surpris de voir passer autant de temps. Je m'attends à moins de démonstrations hyper longues chez les constructeurs, parce que ça va être une année assez chargée chez les constructeurs. Enfin, quand je dis chez les constructeurs, du coup, ça exclut Sony, ça exclut Nintendo, qui, de toute façon, présente des jeux et a très peu d'occasions, fait vraiment du pur gameplay, quelqu'un manette en main pendant 10 minutes. De toute façon, ils sont même pas sur un plateau, donc ça fonctionne pas de la même manière. Mais Microsoft ne fera pas ça. Voilà, c'est une façon de dire Microsoft ne fera pas ça. Par contre, Bethesda le fera très vraisemblablement. Dernière prédiction.
Tiens, et si pour faire patienter les joueurs, on proposait carrément une petite compile Elder Scrolls ? Alors, je sais pas, on pioche quelques épisodes, on te ressort ça sur des consoles, au hasard, la Switch, et voilà, on regarde comment ça se passe, est-ce que ça se vend ? Est-ce que ça peut faire patienter jusqu'au 6ème ? Pourquoi pas ?
C'est possible, ce serait intelligent, quitte à ressortir Skyrim, autant de ressortir avec d'autres jeux. Donc oui, ça me paraît tout à fait raisonnable. Merci beaucoup Lou pour ces différentes prédictions. On te retrouve dans différentes sections de cet épisode, mais tout d'abord, on va attaquer un petit peu l'actualité. Et cette actualité, si tu le veux bien, Lou, commence très tristement avec le décès de Rémi Gazelle. On l'a appris le 26 mai sur Twitter, les mots sont de son épouse, je cite « Rémi, mon mari, vient de nous quitter. Malgré sa lutte de tous les instants, son envie de vivre et le soutien permanent et indéfectible de ses proches, le cancer a eu raison de lui. » Rémi Gazelle, c'était le compositeur du premier jeu Rayman, c'est à travers ça qu'on le connaît le mieux. C'est un homme, à mon sens, généreux, talentueux, que j'ai eu l'occasion de recevoir plusieurs fois, y compris une fois ici dans la cartouche. Sa musique veut dire beaucoup pour moi, elle a accompagné mon enfance avec le premier jeu Rayman, qui est un des premiers jeux auxquels j'ai joué, un des premiers jeux à avoir une bande sonore, une direction artistique aussi appuyée. Et voilà, j'ai longtemps écouté sa musique à travers ce jeu, à glisser le CD PC du jeu dans un lecteur CD de mes parents, à faire ce genre de choses là, puis ensuite à l'écouter avec avec les différents appareils que j'ai aujourd'hui pour écouter de la musique, que ce soit mon téléphone ou autre. Il vient un petit peu partout avec moi, Rémi Gazelle, avec son œuvre. Ça fait musicalement à peu près 10, peut-être 15 ans que je l'ai rencontré. Je suis pas prêt de le perdre, en tout cas, vraiment au sens artistique, il est avec moi, je pense, pour toujours. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement enchanteur. Ça a accompagné le début de ma, entre guillemets, carrière de joueur. Je sais que le terme est pas forcément bien adapté. Merci en tout cas du fond du cœur, Rémi, pour encore une fois ta générosité, ton talent, ta bonne humeur, bon vent. Je suis certain que les gens se souviendront de toi très longtemps. Nous sommes de retour dans la cartouche. Un petit point de calendrier, si vous le voulez bien, puisque le prochain épisode, ce sont plutôt des prochains épisodes. On a fait nos prédictions E3 au début de celui-ci. Eh bien, sachez que les 10, 11 et 12 juin, oui, la cartouche sera de retour en quotidienne pour couvrir l'E3, les annonces, les conférences. On fait le bilan chaque jour, ou plutôt chaque soir, puisqu'on enregistrera, c'est vrai, tous les deux. Il n'y aura pas de robot loup. Cette fois-ci, ce sera le loup en chair et en os à 21h environ. C'est le moment où on enregistrera. On publiera probablement vers 23h, minuit, chaque jour. Le 3 dans la cartouche, c'est donc très très bientôt. Le calendrier, enfin l'heure de publication peut être un petit peu fluctuante, notamment le premier jour où, en gros, pendant que je montrais, il y aura également Ubisoft. Donc ça risque d'être un petit peu sportif, mais il y aura de très très bonnes choses. On pourra faire le point et on pourra également revenir sur toutes ces annonces en détail, nos impressions, nos idées, notre synthèse de l'E3. Ce sera en 3 épisodes spéciaux. Les deux premiers, ce sera vraiment le conducteur complètement spécial, pas de courrier, pas de calendrier. Et sur le dernier, courrier et calendrier, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos mails, lacartouche@theblueprint.pm, et également vos tweets, @lacartouchebp, pour que nous y répondions sur le dernier épisode de Quotidienne, le 12 juin 2019. La cartouche et le 3, c'est super bientôt. Allez, dans le reste de l'actualité, on part vers Sony, qui fait le point sur sa prochaine console, et également sur la PlayStation 4, sur sa fin de vie. C'était lors d'un événement business de Sony, la boîte entière, pas uniquement PlayStation, et qui a eu lieu le 21 mai. Ils nous ont présenté en vidéo le fameux temps de chargement de Spider-Man PS4, à la fois donc sur une PS4 Pro et en même temps sur cette nouvelle console de nouvelle génération, cette PlayStation 5 en quelque sorte. Le nom n'est pas confirmé, mais on va l'utiliser désormais pour y faire référence. Donc sur PlayStation 5, ça va beaucoup plus vite, ça va 10-15 fois plus vite, c'est incroyable. Évidemment, c'est sur le même jeu, avec probablement le même niveau de détail, etc. etc. Donc, il y a des précautions à prendre. Si, évidemment, les développeurs de jeux, les studios cherchent à booster ce à quoi l'apparence du jeu, son framerate, etc., le temps de chargement, le gain ne sera pas forcément aussi fulgurant. Ce qui est super intéressant, en fait, dans la présentation de Sony, au-delà d'avoir pu voir cette vidéo qui nous a été uniquement relatée en mots il y a quelques semaines de cela maintenant par Wired, le magazine américain Wired, c'est un petit peu ce que Sony disent eux-mêmes de leur stratégie d'annonce. Ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est que la console a un nouveau processeur, une nouvelle carte graphique, aura à l'intérieur de la mémoire intégrée directement avec du SSD, sera compatible avec la PS4, inclura la fonctionnalité dite de ray tracing dans son calcul, on va dire, graphique, donc de faire rebondir des rayons qui simulent les rayons de lumière, qui permettent d'avoir de meilleures réflexions, de la meilleure diffusion de lumière. Par exemple, si vous avez une surface rouge, puis une surface réfléchissante en dessous, que la lumière tape d'abord sur la rouge, puis se réfléchit sur la surface réfléchissante, vous allez voir une espèce de halo rouge sur cette surface réfléchissante. J'espère que cette description extrêmement sonore et pas très visuelle vous suffira. La possibilité pour la console de sortir une image en 8K, c'est à se demander sur quel écran et c'est à se demander quel jeu également. Je pense sincèrement que c'est plus pour du Blu-ray, pour du film que pour autre chose, pour du Netflix. La possibilité de la console d'avoir un lecteur de disque incroyable, elle aura un lecteur de disque, et enfin de l'audio dit 3D, donc de l'audio plus immersif, c'est ce qui a également promis. Et ce qu'on ne sait pas encore, et Sony veut le dire, c'est qu'on ne sait pas encore quand ça sort. On ne sait pas encore quel est le prix de la console, on ne sait pas encore quels sont les jeux qui iront avec cette console, on ne sait pas quelle est l'expérience utilisateur, l'interface, la manette également, et on ne sait pas non plus quel pays et quand pour la sortie de cette console. Donc Sony eux-mêmes disent, regardez, on n'a pas du tout montré ces choses-là. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que Sony met en exergue ces points-là en disant, regardez, en quelque sorte, ils ne le disent pas clairement, mais c'est très clairement sous-entendu, c'est nos variables d'ajustement. C'est ce qui nous permettra de répondre à Microsoft, si jamais, par exemple, on se dit on peut être plus compétitif sur le prix, ben on va peut-être baisser un peu le prix. Effectivement, c'est une meilleure carte graphique, un meilleur processeur, mais c'est pas encore détaillé lequel spécifiquement, et on peut peut-être ajuster là aussi sur cette variable là. Ce sera meilleur, oui, ce sera meilleur de combien? Si on veut optimiser pour le prix, il y aura peut-être un sacrifice à faire de ce côté là par exemple. De combien est le SSD à l'intérieur, de combien de gigaoctets est sa capacité. Là aussi, pour par exemple jouer sur le prix ou sur la disponibilité en fonction de ce qui peut être construit dans les temps de sortie, ça peut être joué. Donc on voit une console qui peut encore beaucoup changer à l'heure où on parle, au moment où on parle, parce que Sony attend sur Microsoft. C'est clairement mon sentiment. C'est clairement ce qui transpire en fait de ces slides et de cette annonce à la presse et aux investisseurs. Donc Sony est assez malin sur ce coup-là. Autre truc intéressant, Sony déclare que pour cette nouvelle génération de consoles, les jeux seront disponibles par 3 canaux distincts, et le but c'est d'avoir tous les jeux dessus, tous les jeux compatibles avec cette nouvelle, enfin faits pour cette nouvelle génération de consoles, cette PlayStation 5, seront à la fois disponibles en Blu-ray, seront disponibles en téléchargement et seront disponibles en streaming. Alors que tous les jeux PS4 ne sont clairement pas disponibles en streaming, ça c'est clair. Le but est que tous les jeux PS5 le soient. Autre chose, enfin, en ce qui concerne la PlayStation 4, Sony espère la faire vivre pour en tout cas 3 ans, donc en tout cas jusqu'en mai 2022. Veut continuer à sortir de jeux de grande importance sur cette console, y compris donc Death Stranding, Ghost of Tsushima et notre ami The Last of Us Partie 2. Donc Death Stranding confirmé pour PS4, mais peut-être aussi pour le nouveau support si il est rétrocompatible, ce qui est le cas, donc on verra ce qui se passe. En tout cas, j'ai l'impression qu'on nous fait le coup du jeu de transition comme Zelda Breath of the Wild l'a été pour la Switch et la Wii U, enfin entre la Wii U et la Switch, ou Zelda Twilight Princess l'a été pour la GameCube vers la Wii. Je serais pas surpris que ça se passe comme ça. Et l'idée également est que la PlayStation 4 a un rôle important puisqu'elle est, je cite, le terreau fertile pour assurer le succès de la nouvelle console de la future PlayStation 5, ce qui fait sens également avec cette rétrocompatibilité, l'idée de dire vous allez pouvoir revenir avec tous vos anciens jeux, vous allez juste en gros mettre à jour la boîte sur laquelle vous voulez jouer. Ce n'est guère surprenant. Enfin, Sony a également annoncé la veille de cette conférence, un peu porte-close, mais quand même disponible pour la presse, l'ouverture de PlayStation Production, une petite boîte subsidiaire à Sony PlayStation, pour pouvoir lancer la création de films et de séries basés sur des licences de jeux vidéo. On passe maintenant, mon cher Lou, à quelques nouvelles de Belgique, je crois.
Alors, je tiens tout d'abord à remercier Greg Yanko, en fait, sur Twitter, qui nous a fait l'amabilité de nous faire remonter cette petite information. C'est une information belge, et comme Greg est belge, il a eu la chance de l'avoir. Enfin, la chance, que dire. La malchance plutôt, c'est en fait deux jeux qui disparaissent, deux jeux mobiles qui ne marcheront plus en Belgique, c'est Animal Crossing Pocket Camp et Fire Emblem Heroes. Deux jeux Nintendo, Big N a en effet décidé de simplement les arrêter à cause de la nouvelle législation, vous le savez, sur les lootbox, ça a fait beaucoup parler, et la Belgique a vraiment réagi de façon extrêmement ferme et a légiféré du coup sur la question. Et je suis assez étonné en fait que Nintendo, plutôt que d'adapter son jeu pour essayer de le faire perpétuer en Belgique, il s'est dit « Eh ben non, puisque c'est comme ça, bah allez, on s'en fiche, on ne pense pas aux joueurs et on dégomme tout simplement le jeu, il ne sera plus disponible. » Donc ces jeux ne seront plus disponibles. Je trouve ça un petit peu dommage déjà, parce que ben, pour les gens qui se sont investis en fait dans les parties, enfin j'imagine pour les joueurs d'Animal Crossing Pocket Camp qui ont passé des heures et des heures et des heures à jouer, ben voilà, c'est fini à partir du 27-8, donc c'est vraiment dommage en fait. Je pense que là, celui qui trinque finalement, c'est le joueur, alors qu'ils auraient pu trouver en fait des manières de, comment dire, de proposer du gameplay, de proposer des achats sans que ça passe, tout en gardant en fait la validation par rapport à cette loi en Belgique. C'est vraiment dommage.
C'est regrettable, j'ai pas grand chose de plus à dire. Tu as tout dit, Lou, Nintendo aurait pu, Nintendo ou Dina, son partenaire pour notamment les jeux mobiles, aurait pu faire un plus grand effort de ce côté-là. On passe à une annonce de console, vous ne l'avez peut-être pas vu passer, mais ce serait tout de même étonnant parce que ça a fait les gros titres le jour de son annonce. Il s'agit de Playdate, une console proposée par Panic, qui est une société américaine basée à Portland, donc un petit peu hipster déjà, rien que dans la localisation, dans où ils se trouvent, où ils sont installés, qui développe généralement des applications pour macOS, notamment de très bonnes applications de FTP pour ceux à qui ça parle et d'édition de code. Panic qui a également participé à la sortie, la publication de Firewatch, mais aussi à un jeu qui devrait sortir prochainement, notamment sur Switch, Untitled Goose Game, donc le jeu d'oie sans titre. Alors ce n'est pas un jeu de loi, hein, c'est plutôt un jeu dans lequel on joue une oie qui doit aller déranger un jardinier. Bref. Tout ça pour dire que Panic a donc annoncé Playdate, une console portable monochrome. Les pixels sont soit noirs, soit éteints, pas de rétroéclairage, avec une bonne définition pour sa petite taille, 400x240 de mémoire. La console est extrêmement limitée en termes de boutons. On a un bouton A, un bouton B, une croix directionnelle, un bouton menu et une manivelle. Sur le côté droit, oui, une manivelle qui se détache, qui se déplie un tout petit peu, qui reste connectée à la console, mais qui doit se déplier pour être complètement tournée, et qui peut du coup également se ranger si on la rattache, et qui sert donc à tourner dans un sens ou dans un autre. C'est très Shadokéen en quelque sorte, hein, les Shadok Pompeii, et bien vous, avec la Playdate, vous tournerez. C'est assez rigolo. Sous quelle forme seront les jeux ? Eh bien, sous la forme de saison, un petit peu comme une série, des petits jeux, enfin, petits et grands, nous dit-on. Certains sont plus du ressort du mini-jeu façon Game & Watch, d'autres sont plus développés. Une saison de 12 jeux sera inclus. Certains développés par, enfin, l'un d'entre eux développé par Keita Takahashi, le créateur de Katamari Damacy, tout de même. Un autre créé par Zach Gage, le créateur d'excellents jeux mobiles dont Flip Flop Solitaire, Ridiculous Fishing, Really Bad Chess et d'autres. Et donc, la console vous propose chaque lundi de la saison, donc pendant 12 semaines, via le Wi-Fi, un nouveau jeu, ajoute un nouveau jeu à votre console chaque lundi, donc 12 jeux inclus gratuitement. La console tournera sur un système d'exploitation propriétaire inédit, écrit par Panic, mais chacun pourra également mettre du code en Lua, des jeux en Lua, qui seront développés eux-mêmes. C'est pas explicitement dit, mais à la fois connaissant la philosophie de Panic et en même temps, vu les différentes déclarations de leur patron Kabel Sasseur, qui est également un petit peu le chef du projet, qui est un petit peu son projet de cœur, cette console, la Playdate, cette console portable, hein, je le précise si jamais ce n'était pas clair, c'est vraisemblablement quelque chose qui sera faisable. La console coûtera $150, elle sortira en 2020, c'est un peu cher, j'ai vu beaucoup de gens réagir là-dessus en disant « pauvre gadget, $150, etc. » D'autres saisons de jeu pourraient exister, celle-ci serait par contre vraisemblablement payante et pourra avoir lieu suivant ce qui se passe en termes de vente. C'est la plus probable, voilà, plus probable variable d'ajustement de ce côté-là. Donc le site, vous pouvez le consulter sur play.date. Il y a une édition spéciale, pas une édition spéciale, mais un dossier dans la dernière édition du magazine britannique Edge, le numéro 333, le numéro de juillet 2019, qui a vite été épuisé d'ailleurs en ligne et qui peut-être est encore retrouvé dans les bons marchands de journaux britanniques. Quelle chance, j'étais justement au Royaume-Uni pendant la semaine de la sortie, j'ai pu le prendre et j'ai pu lire tout le dossier, c'était assez fascinant. J'ai personnellement assez hâte pour la Playdate, je comprends bien que ça parle beaucoup à moi qui aime bien ce type de créateur-là, qui aime bien la société Panic, qui aime bien l'univers Apple, donc c'est pour ça que je connais Panic, qui aime bien cette philosophie-là, qui aime bien l'idée d'un jeu qui atterrit comme ça, pouf, sur ta machine, et peut-être même la possibilité d'avoir des jeux construits de but en blanc, et la créativité qui viendra à la fois de la bizarrerie de cette manivelle. Tous les jeux ne l'utiliseront pas, certains jeux n'utiliseront que ça, d'autres l'utiliseront en partie, d'autres ne l'utiliseront pas du tout. À la fois donc de cette, comment dire, de cet input, de ce bout de manette vraiment inédit, et d'autre part, par la limitation. Et la limitation, on va dire, intelligente. Certes, il n'y a pas de rétroéclairage, et à mon sens, c'est un petit peu dommage, même si on nous promet que la réflectivité de l'écran fait que c'est aussi confortable à lire qu'un Kindle, donc très confortable à lire, beaucoup plus confortable à regarder qu'une Game Boy première génération. Certains la trouvent trop chère, certains trouvent le concept trop limité. À voir, en tout cas, il y a l'air d'avoir beaucoup d'intérêt derrière, y compris le mien. J'espère avoir l'occasion de vous en parler à la prochaine saison de la cartouche, en 2020. Allez, souhaitons que ça sorte première moitié de 2020 plutôt que de deuxième moitié de 2020. C'est dommage que Lou ne soit pas là, puisqu'on a eu une petite conférence de presse Pokémon le 29 mai à 3h du matin, soit littéralement 2h après que Lou m'envoie ses bouts de voix pour cet épisode de la cartouche. 4 annonces donc lors de cette conférence de presse. La première, c'est que le prochain jeu Détective Pikachu, la série avait commencé sur Nintendo 3DS, sortira sur Nintendo Switch, ce qui n'est guère étonnant vu la désertification de la 3DS aujourd'hui. Deuxième annonce, Pokémon Home, un service qui fonctionnera avec la Switch, avec iOS, avec Android pour gérer ses Pokémon. Alors on ne sait pas si c'est un service qui tournera uniquement sur iOS et Android, mais qui sera compatible avec les jeux Switch. Enfin, on sait qu'il sera compatible avec les jeux Switch, mais c'est pas très clair de savoir si est-ce qu'il y aura également un terminal Pokémon Home sur Switch ou non. Ce serait quand même plus confortable, mais c'est mon avis. Donc pour gérer ces Pokémon, compatible avec la Pokémon Bank, donc vous pourrez vraisemblablement réimporter vos Pokémon de la Pokémon Bank là-dessus, ce qui vous ouvre la possibilité en gros de faire venir plein de Pokémon de plein d'anciens jeux, ce qui est assez chouette pour être honnête, surtout pour les gens qui ont passé des heures et des heures à les entraîner, les capturer, avoir les bonnes petites statistiques cachées pour chacun de ces Pokémon là pour qu'ils soient les plus puissants ou les plus compatibles avec ce qu'ils veulent faire. Pokémon Home sera compatible également avec Pokémon Go, avec Pokémon Let's Go sur Switch et Pokémon Bouclier et Épée, les nouvelles aventures qui sortiront à la fin de cette année. Pokémon Home, lui, ce service sortira début 2020. Troisième chose, Pokémon Sleep, un autre service qui lui sortira en 2020 tout court, et comme son nom l'indique, Sleep, Pokémon Sleep utilisera les données de sommeil du joueur dans un petit jeu compatible en tout cas avec Pokémon Go. Un nouvel accessoire sortira avec, le Pokémon Go +++. Alors, je tiens à dire à quel point je suis vexé, parce que je ne peux pas, juste avec ma voix, juste comme ça, vous montrer à quel point ce nom est ridicule. Il s'agit donc de Pokémon, P-O-K-E-M-O-N, Go, G-O, plus, P-L-U-S, puis ensuite plus, mais le signe plus. Le Japon a un... c'est vraiment une histoire d'amour avec les noms complètement improbables. Et ce Pokémon Go +++ fonctionne donc comme un Pokémon Go Plus, donc vous permet d'avoir des notifications, de savoir quand vous approchez de Pokémon que vous voulez avoir, de pouvoir loguer vos marches pour pouvoir faire éclore des œufs, etc., etc. Mais se met également, se pose près de l'oreiller, c'est la fonctionnalité supplémentaire du +++, pour mesurer votre activité de sommeil, ce qui se synchronise ensuite au téléphone en Bluetooth, et ce qui du coup, si j'imagine, vous passez une bonne nuit, vous vous couchez aux bonnes heures, etc., bref, vous êtes un bon dormeur comme il faut, et c'est peut-être plus pour les enfants que pour les adultes, je ne sais pas, c'est pas encore très très clair, il n'y a pas beaucoup de détails dessus, vous donnera des récompenses, des nouveaux Pokémon peut-être, des objets, quoi ou qu'est-ce. Je trouve ça à la fois un peu gnangnan et en même temps un peu, je ne vais pas dire flippant, mais juste too much, quoi, d'avoir du sommeil, de l'analyse de sommeil qui vient se synchroniser avec Pokémon. Je trouve ça invasif au possible, donc je suis pas très intéressé par ça. Enfin, Pokémon Masters, pour combattre dresseurs et champions historiques de la série. On ne sait pas sur quoi ça sortira, Pokémon Masters. Si ce sera sur smartphone, Switch, 3DS, Playdate, Nokia 3310, on ne sait pas. À mon sens, c'est l'annonce la plus cool. Comme Lou n'est pas là d'ailleurs, il peut pas me contredire là-dessus. Mais vraiment, Pokémon Masters, l'idée de pouvoir combattre, je ne sais pas, Pierre de Pokémon Bleu et Rouge, par exemple, tous les conseils des quatre, des grands jeux Pokémon, des premiers jeux de chaque génération, etc. Je trouverais ça très chouette, personnellement. À voir. J'espère que ce sera un jeu Switch. Un petit jeu Switch en téléchargement, peut-être, où on constitue son équipe, on importe d'un autre jeu, etc. Je trouverais ça extrêmement appréciable. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est qu'un Pokémon Direct aura lieu d'ici au prochain épisode de la cartouche, qu'on traitera du coup un petit peu en package avec la première salve de 3, la première ou la deuxième, suivant à quel point on aura de choses à dire. Cette conférence, c'est pas une conférence, c'est un Pokémon Direct, aura lieu le mercredi 5 juin à 15h heure de Paris pour une durée d'environ 15 minutes et sera consacrée à Pokémon Bouclier et Pokémon Épée, ce qui veut dire aussi qu'on verra pas forcément beaucoup de Pokémon Épée durant le Nintendo Direct E3 de Nintendo. Waouh, il y a beaucoup de Nintendo dans cette phrase. De l'E3, de Nintendo, de l'E3. Voilà. On passe maintenant, eh bien tiens, à autre chose qui a également eu droit à un petit direct récemment. Il s'agit de Mario Maker 2, excellent direct de Super Mario Maker 2, on a appris plein de choses sur le jeu, je ne vous ferai pas l'affront de vous le récapituler aujourd'hui. 1, on n'a pas le temps, 2, c'est pas super intéressant, vous pouvez aller le voir vous-même si le jeu vous intéresse. Toujours est-il que plusieurs médias, dont GameXplain et Nintendo World Report, ont confirmé qu'il ne sera pas possible de jouer en multi-online avec ses amis. Je répète, il ne sera pas possible de jouer au multi-online avec ses amis. C'est une fonctionnalité qui n'est pas présente dans le jeu. Peut-être devant lire la colère des gens devant cette pitoyable décision de ne pas permettre aux gens qui se connaissent de pouvoir jouer ensemble à des niveaux de Mario. Peut-être que Nintendo patchera cela. Reste que rien n'est annoncé en ce sens pour l'instant. Et c'est idiot. Voilà, il y a peut-être une justification du style « Oh oui, mais il y a des leaderboards et on veut pas que vous puissiez vous coordonner, etc. » Je m'en fous. Dans ce cas-là, désactive les leaderboards et laisse-nous juste jouer. Je m'en fiche. Voilà, c'est vraiment nul. C'est nul. Il faut le dire, parfois, quand quelque chose est vraiment nul, c'est nul, nul. Enfin, il y a de très bonnes fonctionnalités online dans ce jeu-là. Tu peux juste pas y jouer avec tes amis. Tu peux faire de la compétition, tu peux faire de la collaboration, mais pas avec tes amis. À quoi ça sert d'avoir des listes d'amis, d'avoir des abonnements online si tu peux pas jouer online avec tes amis sur un jeu aussi central, notamment pour cette année, pour Nintendo, comme Mario Maker 2, je me le demande. Donc c'est nul. Cependant, on a eu la confirmation, et ça non plus c'était pas sûr, et c'était quelque chose qui restait à confirmer, qu'il sera possible de jouer à Super Mario Maker 2 sur une seule Switch, sur un seul écran, que ce soit branché à une télé ou directement en mode portable, à 2 ou 4 manettes, en multilocal, un écran, ce qui n'était pas clair dans le Nintendo Direct, mais ce qui est maintenant clair, après confirmation de plusieurs représentants de Nintendo à travers le monde. En suivi maintenant, l'Epic Game Store, et un petit avertissement, si vous achetez trop de jeux d'un coup, le store pourrait bien vous bloquer votre compte, oui. C'est un souci quand il y a des soldes groupés, hein, puisque plein de gens vont acheter plein de jeux en même temps. L'Epic Game Store, il faut le dire aussi, n'a toujours pas de fonctionnalité panier, ce qui est étrange. La réponse d'Epic par rapport à tout cela d'un représentant d'Epic, c'est que ces différents blocages de joueurs qui ont tenté d'acheter plein de jeux pendant des soldes est dû à un dispositif, je cite, un dispositif anti-fraude trop rigide. Les clients concernés doivent contacter l'assistance en ligne. Fin de citation. Epic n'a clairement pas déclaré par ce truchement-là si le dispositif anti-fraude a été adapté depuis le problème. Donc, écoutez, on verra. On verra également, c'est le film Sonic qui, après une énorme polémique en ligne sur le design du héros principal de Sonic lui-même, eh bien le film sera repoussé pour être retravaillé. On savait déjà que le film allait être retravaillé. On craignait, beaucoup craignaient que les animateurs, les gens qui bossent surtout sur l'aspect artistique de ce film-là allaient souffrir, puisqu'ils allaient devoir respecter la même deadline en refaisant une très grande partie du film. Eh bien non, le film a été repoussé. Attendez-vous à de grandes surprises au 14 février 2020, soit à la Saint-Valentin de l'année prochaine. Allez, c'est l'heure du calendrier de la cartouche. Lou, tu ne peux pas dire si tu es prêt car tu n'as pas enregistré de réplique, donc je ne peux pas te faire dire « je suis tout à fait prêt » car voilà. Le calendrier donc des jeux qui sortent du 1er au 12 juin, qui ont retenu notre attention. On commence avec Persona Q 2 New Cinema Labyrinth, un RPG dungeon crawler qui sortira le 4 juin. Oh là là, pour mon anniversaire, j'en ai rien à faire, mais voilà, merci beaucoup Atlus, sur Nintendo 3DS, un des derniers jeux 3DS donc. Slay the Spire sort également, mais deux jours plus tard, jeu de cartes roguelite, le 6 juin donc, sur Nintendo Switch. Il est déjà disponible sur PlayStation 4, Windows, macOS et Linux. J'aurais aimé caser des jeux qui ne sont pas forcément sur support Nintendo, mais franchement, la période n'est pas follement intéressante. E3 oblige. Les bons tuyaux maintenant, les articles vidéo émissions qu'on vous recommande et qui font le jeu vidéo d'aujourd'hui. Lou, tu as une petite recommandation pour nos auditeurs.
Alors cette fois-ci, je vous recommande un article de Forbes qui s'intitule « Attention, accrochez-vous, Twitch streamers are getting paid $50,000 oui, je parle franglish, an hour to play new games, they deserve it, mon dieu. Donc les streamers sur Twitch sont payés $50,000 pour une heure de jeu, pour jouer à des nouveaux jeux du coup, et ils le méritent. Donc derrière ce titre qui peut faire rouler des yeux et ouvrir des bouches bées, et supplier de signer des chèques, se trouve un article très intéressant en fait sur le système économique de Twitch, sur la façon dont les joueurs se font de l'argent, et c'est bien surtout pour apprendre en fait l'envers du décor et pour rêver d'un jacuzzi aussi par exemple, si ça vous tente.
Les liens de tout ce qu'on cite ici sont disponibles dans la page et la description de l'épisode, y compris sur votre application de podcast, si c'est une bonne application de podcast. Petit test, c'est une bonne application de podcast, vous voyez également les chapitres, puisque l'épisode est chapitré, comme de coutume avec la cartouche. Merci beaucoup Lou en tout cas pour cette recommandation. Quant à moi, je vous recommande Game Maker's Toolkit, comment faire un trailer de jeu indé, une vidéo d'une quinzaine de minutes absolument passionnante qui, si vous n'êtes pas forcément dans l'optique de créer un trailer de jeu indé, vous montrera en tout cas les très clairs, comment dire, lieux communs de trailer de jeu. C'est vraiment marrant à regarder, je vous le recommande chaudement. Également, deux billets de blog sur le site Legends of Localization, les légendes de la localisation, donc de la traduction adaptation de jeu d'un pays à un autre, d'une langue et d'une culture à une autre. Le premier consacré à la phrase Game Set, qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, y compris Smash Bros. Et aussi un article consacré à la fascination du Japon pour la phrase en anglais Let's quelque chose. Et également pour la fin de phrase, enfin la fin de mot Ing. C'est vraiment très très drôle, je vous encourage à aller lire. Tout cela est en anglais, mais tout cela est super intéressant. Enfin, voici voilà Ashley Rose qui nous écrit un petit peu de courrier, qui nous dit « Salut Yann, salut Lou, je suis une fille trans et comme beaucoup d'entre nous, le jeu vidéo est parfois un refuge, un moyen d'incarner un peu plus un genre que nous nous acharnons à faire nôtre. À quel point les transgenres sont-ils représentés selon vous en 2019 dans ce média? Quel traitement en effet au-delà des préjugés et des clichés? En bref, la transidentité est-elle une réalité dans le jeu vidéo? Je vous embrasse, vous accompagnez bien des moments de temps libre de ma vie et mon fils porte aussi le prénom de Lou. Ce qui a créé dès le début un lien affectif avec votre podcast. À bientôt, Ash. Merci beaucoup, Ashley, pour ce courrier. Je vais te répondre, mais tout d'abord, je laisse Lou dire ce qu'il veut dire.
Eh bien, merci beaucoup pour ton courrier, Ash. Alors, tout de suite, je pense forcément aux Sims, clairement, qui sont pour moi le jeu qui réfléchit le plus à la question, qui a toujours d'ailleurs été assez progressiste sur les questions de société, notamment aussi, par exemple, sur le mariage homosexuel qui est présent depuis le deuxième épisode alors qu'il n'était pas encore légalisé justement aux États-Unis. Donc la transidentité est peut-être plus abordée dans le quatrième épisode dans lequel on peut en fait créer des Sims hommes qui peuvent tomber enceintes ou des Sims femmes qui peuvent mettre enceintes les Sims, en sachant aussi que les Sims peuvent choisir de s'habiller avec des vêtements dits masculins ou féminins. Qu'importe leur sexe, en fait. Il y a vraiment une grande liberté de ce côté-là. Et en ça, c'est vraiment important, je pense, de les saluer. Et c'est assez, assez dingue, en fait, de se dire que toute cette ouverture d'esprit vient d'un jeu américain qui représente vraiment le mode de vie américain. C'est peut-être le jeu le plus américain qui puisse exister. Si on oublie peut-être les gros biscottos dans Gears of War et ce genre de trucs. Mais voilà, enfin, c'est un jeu très ouvert. Et je pense que la question, en tout cas, doit commencer à se poser de ce côté-là. J'ai pas d'autres exemples, malheureusement, en tête. Même si c'est une question qui commence à être beaucoup abordée dans les jeux, notamment côté indé, en fait. Par exemple, du côté des indés, on a eu Unnormal Lost Phone, qui était une expérience très très sympathique, développée d'ailleurs par des Français, françaises même pour le coup. Donc ça reste encore des expériences marginales malheureusement dans le jeu vidéo, mais on commence à réfléchir à la question, et peut-être qu'on aura des jeux avec plus d'envergure qui réfléchiront à l'avenir.
Merci Lou pour ta réponse. Je pense, comme Lou, je pense que le jeu vidéo a beaucoup à faire dans le domaine. De manière générale, dans tous les jeux que je joue, ou presque, il y a globalement aucune mention qui est faite à la transidentité d'aucune manière. L'exemple peut-être le plus présent c'est peut-être mais très involontairement de la part de Nintendo le personnage de Birdo qui peut soit être vu sous l'angle de la transidentité, soit être vu sous l'angle du travestissement, soit vu sous différents angles. J'essaye désespérément de pas utiliser de termes termes, parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont entrés dans le langage commun qui peuvent être blessants, et vraiment en tant que pauvre mec qui a pas l'occasion de beaucoup parler de ces sujets là je sais que je marche sur une corde raide, n'est-ce pas, donc j'essaie d'être assez équilibré là-dessus, et surtout de pas dire quelque chose de blessant, parce que c'est pas du tout ni mon but, ni mon souhait, ni quoi que ce soit. Je trouve que effectivement c'est une question très peu traitée dans le jeu vidéo, que quand elle l'est, le plus souvent elle est traitée sous l'angle du comique, et c'est notamment ce que le Japon a tendance à faire, ou sous l'angle de hahaha, tu t'es fait piéger, tu pensais que c'était une femme et en fait c'est un homme, hahaha, qui joue beaucoup justement sur l'humiliation de personnages masculins, et également du coup l'humiliation de personnages trans. C'est très compliqué. Très compliqué pour trouver des exemples, en fait, tout simplement, au-delà de cas où c'est juste utilisé soit comme ressort comique, soit comme ressort d'humiliation d'une personne autour, et très souvent de la personne trans inclus dans la situation, dans la scène, dans quoi que ce soit relatif aux jeux vidéo. Ce qui est également d'ailleurs relatif au cinéma assez souvent, malheureusement, hein, en tout cas dans le cinéma et les séries télé grandes publiques. Donc ça, c'est assez regrettable. Et toute une catégorie d'humour, extrêmement lourd et extrêmement dégradant, qui se base là-dessus et qui transpire très clairement dans le jeu vidéo et dans sa culture très orientée masculine, etc. Donc ça c'est un premier point, je pense, qui est inévitable quand on parle de ça. Autre chose que j'aimerais dire, c'est il y a un point d'actualité qui m'a marqué, c'est le remake ajouté de Catherine, du jeu Catherine. En gros, Atlus Japon a fait, comme je disais, un ressort tragicomique, mais vraiment de mauvais goût par rapport à un de ses personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa localisation, visiblement, Atlus, je crois bien que c'est Atlus Amérique, essaye désespérément d'éponger les conneries des développeurs originaux en faisant on va adapter le truc, on va pas faire ce qui s'appelle le dead name, c'est-à-dire de continuer à utiliser le nom de la personne avant sa transition, après qu'elle l'ait faite, parce que c'est une manière de lui retirer comment elle se sent, comment les choix qu'elle a fait, sa nouvelle identité simplement, et comment cette personne là se sent au plus profond d'elle-même. C'est une manière de retirer ça, d'utiliser le nom utilisé précédemment, et c'est pas à la fois c'est se comporter comme un gros connard, et en même temps ça peut être même extrêmement volontairement blessant et assez dérangeant pour les personnes que ça touche. Donc c'est intéressant de voir la différence culturelle là-dessus, le début de progressisme. Et pour l'instant, j'ai pas encore vu de troupes à la Gamergate crier à la censure, etc. Ça arrivera peut-être. Je pense personnellement que c'est pas excessivement dérangeant, surtout quand on voit à quel point le Japon peut aussi avoir des produits culturels autour du nazisme, autour de certains trucs un petit peu voire même très racistes également, non pas que la culture qu'elle provienne de France, qu'elle provienne des États-Unis ou d'ailleurs n'ait pas son lot de transphobie, de racisme, de pro-nazisme ou quoi que ce soit, il y en a aussi, mais c'est juste que on voit clairement la perméabilité d'un certain type de choses qu'on considère blessant et hors du respectable, notamment pour ce qui est vendu comme un produit de consommation de masse. Donc je voulais juste mettre cette évolution dans la conscience notamment des studios, des boîtes, des éditeurs, etc. Cette lente mais nécessaire à mon sens évolution des consciences. Et c'est sur, oulala, c'est sur ces propos extrêmement mesurés et extrêmement, chargés. Voilà, il faut que l'industrie du jeu vidéo avance là-dessus et clairement, il y a de grands efforts à faire. C'est sur cela qu'on termine cet épisode de La Cartouche, que je vous remercie évidemment d'avoir suivi. C'était un virage très difficile à prendre pour vous dire au revoir et à bientôt. La Cartouche pour cette semaine, c'est donc terminé. Vous pouvez nous écrire sur Twitter @lacartouchebp et lacartouche@blueprint.pm. Cet épisode a été enregistré le mardi 28 mai au soir pour Lou et le mercredi 29 mai après-midi pour moi. Merci à toi Lou, @alexleserveur sur Twitter.
Merci beaucoup Yann, c'était très intéressant de faire cette émission avec toi et promis, s'il y a Banjo-Kazooie, je fais la prochaine émission nue, voilà, je tiens à le dire.
Je crois que personne ne le verra, mais c'est bien noté en tout cas, mon cher Lou. Je suis Yann, @InksHD sur Twitter, merci à Cédéto pour le logo, Benji Pesque pour l'habillage, merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutez, n'hésitez pas à nous faire vos retours avec une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcast. N'oubliez pas, le 10, 11 et 12 juin, La Cartouche est en quotidienne pour le 3. Let's go! Et rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt. Ciao, ciao!